Chapitre 4. Le triste effet produit par mon chant ne laissait pas que de m'attrister. Hélas, musique, hélas, poésie, me répétais-je en regagnant Paris, qu'il y a peu de cœurs qui vous comprennent. En faisant ces réflexions, je me cognais la tête contre celle d'un oiseau qui volait dans le sens opposé au mien. Le choc fut si rude et si imprévu que nous tombâmes tous deux sur la cime d'un arbre qui, par bonheur, se trouva là. Après que nous nous fûmes un peu secoués, je regardais le nouveau venu m'attendant à une querelle. Je vis avec surprise qu'il était blanc. À la vérité, il avait la tête un peu plus grosse que moi et sur le front une espèce de panache qui lui donnait un air héroïque-comique. De plus, il portait sa queue fort en l'air avec une grande magnanimité. Du reste, il ne me parut nullement disposé à la bataille. Nous nous abordâmes fort civilement et nous nous fîmes de mutuelles excuses, après quoi nous entrâmes en conversation. Je pris la liberté de lui demander son nom et de quel pays il était. « Je suis étonné, me dit-il, que vous ne me reconnaissiez pas. Est-ce que vous n'êtes point des nôtres ?»« En vérité, monsieur, répondis-je, je ne sais pas desquels je suis. Tout le monde me demande et me dit la même chose. Il faut que ce soit une gageure qu'on ait faite. »« Vous voulez rire, répliqua-t-il. Votre plumage vous sied trop bien pour que je méconnaisse un confrère. » Vous appartenez infailliblement à cette race illustre et vénérable qu'on nomme en latin caquata, en langue savante cacatoès, et en jargon vulgaire cataqua. Ma foi, monsieur, cela est possible et ce serait bien de l'honneur pour moi. Mais ne laissez pas de faire comme si je n'en étais pas, et daignez m'apprendre à qui j'ai la gloire de parler. « Je suis, répondit l'inconnu, le grand poète Cacatgan. J'ai fait le puissant voyage, monsieur, des traversées arides et de cruelles pérégrinations. Ce n'est pas d'hier que je rime et m'amuse à vue des malheurs. J'ai fredonné sous Louis XVI, monsieur, j'ai braillé pour la République. » J'ai noblement chanté l'Empire, j'ai discrètement loué la Restauration, j'ai même fait un effort dans ces derniers temps, et je me suis soumis, non sans peine, aux exigences de ce siècle sans goût. J'ai lancé dans le monde des distiques piquants, des hymnes sublimes, de gracieux dithyrambes, de pieuses élégies, des drames chevelus, des romans crépus, des vaudevilles poudrées, et des tragédies chauves. En un mot, je puis me flatter d'avoir ajouté au temple des muses quelques festons galants, quelques sombres créneaux et quelques ingénieuses arabesques. Que voulez-vous ? Je me suis fait vieux. Mais je rime encore vertement, monsieur. Et tel que vous me voyez, je rêvais à un poème en un chant qui n'aura pas moins de 600 pages quand vous m'avez fait une bosse au front. Du reste, si je puis vous être bon à quelque chose, je suis tout à votre service. Ah, vraiment, monsieur, vous le pouvez, répliquai-je, car vous me voyez en ce moment dans un grand embarras poétique. Je n'ose dire que je sois un poète, ni surtout un aussi grand poète que vous, ajoutai-je en le saluant, mais j'ai reçu de la nature un gosier qui me démange quand je me sens bien aise ou que j'ai du chagrin. À vous dire la vérité, j'ignore absolument les règles. Oh, je les ai oubliées, dit Cacatogan. Ne vous inquiétez pas de cela. Mais il m'arrive, repris-je, une chose fâcheuse. C'est que ma voix produit sur ceux qui l'entendent à peu près le même effet que celle d'un certain Jean de Nivelle. Vous savez ce que je veux dire. Je le sais, dit Cacatogan. Je connais pas même cet effet bizarre. La cause ne m'en était pas connue, mais l'effet est incontestable. Eh bien, monsieur, vous qui me semblez être le Nestor de la poésie, seriez-vous, je prie, un remède à ce pénible inconvénient ? Non, dit Kakatogan. Pour ma part, je n'en ai jamais pu trouver. Je m'en suis fort tourmenté étant jeune, à cause qu'on me sifflait toujours, mais à l'heure qu'il est, je n'y songe plus. Je crois que cette répugnance vient de ce que le public en lit d'autres que nous. Cela le distrait. Je le pense comme vous, mais vous conviendrez, monsieur, qu'il est dur pour une créature bien intentionnée de mettre les gens en fuite dès qu'il lui prend un bon mouvement. Voudriez-vous me rendre le service de m'écouter et me dire sincèrement votre avis ?
Très volontiers, dit Kakatogan. Je suis tout oreille.
Je me mis à chanter aussitôt, et j'ai eu satisfaction de voir que Kakatogan ne s'enfuyait ni ne s'endormait. Il me regardait fixement, et de temps en temps, il inclinait la tête d'un air d'approbation, avec une espèce de murmure flatteur. Mais je m'aperçus bientôt qu'il ne m'écoutait pas et qu'il rêvait à son poème. Profitant d'un moment où je reprenais haleine, il m'interrompit tout à coup. « Oh, je l'ai pourtant trouvée, cette rime !» dit-il en souriant et en branlant la tête. « C'est la 60714e qui sort de cette cervelle-là. Et l'on ose dire que je vieillis. Je vais lire cela aux bons amis. Ah, je vais le leur lire, et nous verrons ce qu'on en dira. » Parlant ainsi, il prit son vol et disparut, ne semblant plus se souvenir de m'avoir rencontré. Chapitre 5. Resté seul et désappointé, je n'avais rien de mieux à faire que de profiter du reste du jour et de voler à tire-d'aile vers Paris. Malheureusement, je ne savais pas ma route. Mon voyage avec le pigeon avait été trop peu agréable pour me laisser un souvenir exact, en sorte que, au lieu d'aller tout droit, je tournais à gauche au Bourget et, surpris par la nuit, je fus obligé de chercher un gîte dans les bois de Mortefontaine. Tout le monde se couchait lorsque j'arrivais. Les pies et les geais, qui, comme on le sait, sont les plus mauvais coucheurs de la terre, se chamaillaient de tous les côtés. Dans les buissons, piaillaient les moineaux en piétinant les uns sur les autres. Au bord de l'eau, marchaient gravement deux hérons, perchés sur leurs longues échasses. Dans l'attitude de la méditation, Georges Dandin du lieu, attendant patiemment leurs femmes, d'énormes corbeaux à moitié endormis se posaient lourdement sur la pointe des arbres les plus élevés et nasillaient leurs prières du soir. Plus bas, les mésanges amoureuses se pourchassaient encore dans les taillis, tandis qu'un pivert ébouriffé poussait son ménage par derrière pour le faire entrer dans le creux d'un arbre. Des phalanges de friquets arrivaient les champs en dansant l'air comme des bouffées de fumée et se précipitaient sur un arbrisseau qu'elle couvrait tout entier. Des pinsons, des fauvettes, des rouges-gorges se groupaient légèrement sur des branches découpées comme des cristaux sur une girandole. De toutes parts résonnaient des voix qui disaient bien distinctement « Allons, ma femme, allons, ma fille, venez, ma belle, ici, mamie, mon cher, bonsoir, ma maîtresse, adieu, mes amis, dormez bien, mes enfants. » Quelle position pour un célibataire que de coucher dans une pareille auberge. J'eus la tentation de me joindre à quelques oiseaux de ma taille et de leur demander l'hospitalité. La nuit, pensais-je, tous les oiseaux sont gris. Et d'ailleurs, est-ce faire tort aux gens que de dormir poliment près d'eux ? Je me dirigeais d'abord vers un fossé où se rassemblaient des étourneaux. Ils faisaient leur toilette de nuit avec un soin tout particulier. Je remarquais que la plupart d'entre eux avaient les ailes dorées et les pattes vernies. C'étaient les dandys de la forêt. Ils étaient assez bons enfants et ne m'honorèrent d'aucune attention. Mais leurs propos étaient si creux, ils se racontaient avec tant de fatuité leur tracasserie et leur bonne fortune, ils se frottaient si lourdement l'un à l'autre qu'il me fut impossible d'y tenir. J'allais ensuite me percher sur une branche où s'alignaient une demi-douzaine d'oiseaux de différentes espèces. Je pris modestement la dernière place à l'extrémité de la branche, espérant qu'on m'y souffrirait. Par malheur, ma voisine était une vieille colombe aussi sèche qu'une girouette rouillée. Au moment où je m'approchais d'elle, le peu de plumes qui couvraient ses os était l'objet de sa sollicitude. Elle feignait de les éplucher, mais elle eut trop craint d'en arracher une. Elle les passait seulement en revue pour voir si elle avait son compte. À peine l'eus-je touché du bout de l'aile qu'elle se redressa majestueusement. « Qu'est-ce que vous faites donc, monsieur ?» me dit-elle en pinçant le bec avec une pudeur britannique. Et m'allongeant un grand coup de coude, elle me jeta à bas avec une vigueur qui eût fait honneur à un portefaix. Je tombai dans une bruyère où dormait une grosse gélinotte. Ma mère elle-même, dans son écuelle, n'avait pas un tel air de béatitude. Elle était si rebondie, si épanouie, si bien assise sur son triple ventre, qu'on l'eût prise pour un pâté dont on avait mangé la croûte. Je me glissais furtivement près d'elle. « Elle ne s'éveillera pas, me disais-je, et en tout cas, une si bonne grosse maman ne peut pas être bien méchante. » Elle ne le fut pas, en effet. Elle ouvrit les yeux à demi, et me dit en poussant un léger soupir, « Oh, tu me gênes, mon petit, va-t'en de là. » Au même instant, je m'entendis appeler. C'étaient des grives qui, du haut d'un sorbier, me faisaient signe de venir à elles. « Ah, voilà enfin de bonnes âmes, pensais-je. » Elles me firent place en riant comme des folles, et je me fourrais aussi lestement dans leur groupe emplumé qu'un billet doux dans un manchon. Mais je ne tardais pas à juger que ces dames avaient mangé plus de raisins qu'il n'est raisonnable de le faire. Elles se soutenaient à peine sur leurs branches, et les plaisanteries de mauvaise compagnie, leurs éclats de rire et leurs chansons grivoises me forcèrent de m'éloigner. Je commençais à désespérer et j'allais m'endormir dans un coin solitaire lorsqu'un rossignol se mit à chanter. Tout le monde aussitôt fit silence. Hélas, que sa voix était pure, que sa mélancolie même paraissait douce. Loin de troubler le sommeil d'autrui, ses accords semblaient le bercer. Personne ne songeait à le faire taire, personne ne trouvait mauvais qu'il chantât sa chanson à pareille heure. Son père ne le battait pas, ses amis ne prenaient pas la fuite. « Oh, il n'y a donc que moi, m'écriai-je, à qui il soit défendu d'être heureux. Partons, fuyons ce monde cruel. Mieux vaut chercher ma route dans les ténèbres, au risque d'être avalé par quelque hibou, que de me laisser déchirer ainsi par le spectacle du bonheur des autres. » Sur cette pensée, je me remis en chemin et j'errai longtemps au hasard. Aux premières clartés du jour, j'aperçus les tours de Notre-Dame. En un clin d'œil, j'y atteignis et je me promenais pas longtemps mes regards avant de reconnaître notre jardin. J'y volais plus vite que l'éclair. Hélas, il était vide. J'appelai en vain mes parents, personne ne me répondit. L'arbre où se tenait mon père, le buisson maternel, l'écuelle chérie, tout avait disparu. la cognée avait tout détruit. Au lieu de l'allée verte où j'étais né, ne restait qu'un sang de fagot. Chapitre 6. Je cherchais d'abord mes parents dans tous les jardins d'alentour, mais ce fut peine perdue. Ils s'étaient sans doute réfugiés dans quelque quartier éloigné, et je ne pus jamais savoir de leurs nouvelles. Pénétré d'une tristesse affreuse, j'allais me percher sur la gouttière où la colère de mon père m'avait d'abord exilé. J'y passais les jours et les nuits à déplorer ma triste existence. Je ne dormais plus, je mangeais à peine, j'étais prêt de mourir de douleur. Un jour que je me lamentais comme à l'ordinaire, « Ainsi donc, me disais-je tout haut, je ne suis ni un merle, puisque mon père me plumait, ni un pigeon, puisque je suis tombé en route quand j'ai voulu aller en Belgique, ni une Pyrrhus, puisque la petite marquise s'est bouché les oreilles dès que j'ai ouvert le bec, ni une tourterelle, puisque Gourouli, la bonne Gourouli elle-même, ronflait comme un moine quand je chantais, ni un perroquet, puisque Kakatogan n'a pas daigné m'écouter, ni un oiseau quelconque, enfin, puisque à Mortefontaine, on m'a laissé coucher tout seul. Et cependant, j'ai des plumes sur le corps, voilà des pattes et voilà des ailes. Je ne suis point un monstre, témoin Gourouli et cette petite marquise elle-même, qui me trouvaient assez à leur gré. Par quel mystère inexplicable ses plumes, ses ailes et ses pattes ne sauraient-elles former un ensemble auquel on puisse donner un nom? Ne serais-je pas par hasard? J'allais poursuivre mes doléances lorsque je fus interrompu par deux portières qui se disputaient dans la rue. Ah, parbleu, dit l'une d'elles à l'autre, si tu en viens jamais à bout, je te fais cadeau d'un merle blanc. Dieu juste, m'écriai-je, mais voilà mon affaire. Ô Providence, je suis fils d'un merle, et je suis blanc, je suis un merle blanc. Cette découverte, il faut l'avouer, modifia beaucoup mes idées. Au lieu de continuer à me plaindre, je commençai à me rengorger et à marcher fièrement le long de la gouttière, en regardant l'espace d'un air victorieux. C'est quelque chose, me dis-je, que d'être un merle blanc. Cela ne se trouve pas dans le pas d'un âne. J'étais bien bon de m'affliger de ne pas rencontrer mon semblable. C'est le sort du génie, c'est le mien. Je voulais fuir le monde, je veux l'étonner. Puisque je suis cet oiseau sans pareil, dont le vulgaire nie l'existence, je dois et prétends me comporter comme tel, ni plus ni moins que le phénix, et mépriser le reste des volatiles. Il faut que j'achète les mémoires d'Alfieri et les poèmes de Lord Byron. Cette nourriture substantielle m'aspirera un noble orgueil, sans compter celui que Dieu m'a donné. Oui, je veux ajouter, s'il se peut, au prestige de ma naissance. La nature m'a fait rare, je me ferai mystérieux. Ce sera une faveur, une gloire de me voir. Et au fait, ajoutai-je plus bas, si je me montrais tout bonnement pour de l'argent. Fis donc, mon quelle indigne pensée. Oh, je veux faire un poème comme Kakatogan, non pas en un chant, mais en 24, comme tous les grands hommes. Ce n'est pas assez, il y en aura un 48 avec des notes et un appendice. Il faut que l'univers apprenne que j'existe. Je ne manquerai pas dans mes vers de déplorer mon isolement, mais ce sera de telle sorte que les plus heureux me porteront envie. Puisque le ciel m'a refusé une femelle, je dirai un mal affreux de celle des autres. Je prouverai que tout est trop vert, hormis les raisins que je mange. Les rossignols n'ont qu'à se bien tenir. Je leur démontrerai, comme deux et deux font quatre, que leurs complaintes font mal au cœur, et que leur marchandise ne vaut rien. Il faut que j'aille trouver Charpentier. Je veux me créer tout d'abord une puissante position littéraire. J'entends avoir autour de moi une cour composée non pas seulement de journalistes, mais d'auteurs véritables et même de femmes de lettres. J'écrirai un rôle pour Mademoiselle Rachel, et si elle refuse de le jouer, je publierai un son de trompe que son talent est bien inférieur à celui d'une vieille actrice de province. J'irai à Venise, et je louerai sur les bords du Grand Canal, au milieu de cette cité féerique, le beau palais Bolchenigo, qui coûte 4 livres 10 sous par jour. Là, je m'inspirerai de tous les souvenirs que l'auteur de Lara doit y avoir laissés. Du fond de ma solitude, j'inonderai le monde d'un déluge de rimes croisées, calquées sur la strophe de Spenser, où je soulagerai ma grande âme. Je ferai soupirer toutes les mésanges, recouler toutes les tourterelles, fondre en larmes toutes les bécasses et hurler toutes les vieilles chouettes. Mais pour ce qui regarde ma personne, je me montrerai inexorable et inaccessible à l'amour. En vain me pressera-t-on, me suppliera-t-on, devoir piller des infortunés qu'auront ces 8 méchants sublimes. Tout cela, je répondrai, foin, oh, excès de gloire. Mes manuscrits se vendront au poids de l'or, mes livres traverseront les mers, la renommée, la fortune me suivront partout. Seul, je semblerai indifférent au murmure de la foule qui m'environnera. En un mot, je serai un parfait merle blanc, un véritable écrivain excentrique, fêté, choyé, admiré, envié, mais complètement grognon et insupportable. Chapitre 7. Il ne me fallut pas plus de 6 semaines pour mettre au jour mon premier ouvrage. C'était, comme je me l'étais promis, un poème en 48 chants. Il s'y trouvait bien quelques négligences à cause de la prodigieuse fécondité avec laquelle je l'avais écrit, mais je pensais que le public d'aujourd'hui, accoutumé à la belle littérature qui s'imprime au bas des journaux, ne m'en ferait pas un reproche. J'eus un succès digne de moi, c'est-à-dire sans pareil. Le sujet de mon ouvrage n'était autre que moi-même. Je me conformais en cela à la grande mode de notre temps. Je racontais mes souffrances passées avec une fatuité charmante. Je mettais le lecteur au fait de 1000 détails domestiques du plus piquant intérêt. La description de l'écuelle de ma mère ne remplissait pas moins de 14 chants. J'en avais compté les rainures, les trous, les bosses, les éclats, les échardes, les clous, les taches, les teintes diverses et les reflets. J'en montrais le dedans, le dehors, les bords, le fond, les côtés, les plans inclinés, les plans droits. Passant au contenu, j'avais étudié les brins d'herbe, les pailles, les feuilles sèches, les petits morceaux de bois, les graviers, les gouttes d'eau, les débris de mouche, les pattes de hanneton cassées qui s'y trouvaient. C'était une description ravissante. Mais ne pensez pas que je l'eusse imprimé tout d'une venue. Il y a des lecteurs impertinents qui l'auraient sauté. Je l'avais habilement coupé par morceaux et entremêlé au récit afin que rien n'en fût perdu, en sorte qu'au moment le plus intéressant et le plus dramatique, arrivait tout à coup 15 pages d'écuelle. Voilà, je crois, un des grands secrets de l'art. Et comme je n'ai point d'avarice, en profitera qui voudra. L'Europe entière fut émue à l'apparition de mon livre. Elle dévora les révélations intimes que je daignais bien communiquer. Comment en eût-il été autrement? Non seulement j'énumérais tous les faits qui se rattachaient à ma personne, mais je donnais encore au public un tableau complet de toutes les rêvasseries qui m'avaient passé par la tête depuis l'âge de 2 mois. J'avais même intercalé au plus bel endroit une ode composée dans mon œuf. Bien entendu, d'ailleurs, que je ne négligeais pas de traiter, en passant, le grand sujet qui préoccupe maintenant tant de monde, à savoir l'avenir de l'humanité. Ce problème m'avait paru intéressant. J'en ébauchais dans un moment de loisir une solution qui passa généralement pour satisfaisante. On m'envoyait tous les jours des compliments en vers, des lettres de félicitations et des déclarations d'amour anonymes. Quant aux visites, je suivais rigoureusement le plan que je m'étais tracé. Ma porte était fermée à tout le monde. Je ne pus cependant me dispenser de recevoir deux étrangers qui s'étaient annoncés comme étant de mes parents. L'un était un merle au Sénégal et l'autre un merle de la Chine. « Ah, monsieur, me dirent-ils en m'embrassant à m'étouffer, que vous êtes un grand merle, que vous avez bien peint dans votre poème immortel la profonde souffrance du génie méconnu. Si nous n'étions pas déjà aussi incompris que possible, nous le deviendrions après vous avoir lu. Combien nous sympathisons avec vos douleurs, avec votre sublime mépris du vulgaire. Nous aussi, monsieur, nous les connaissons par nous-mêmes, les peines secrètes que vous avez chantées. Voici deux sonnets que nous avons faits, l'un portant l'autre, et que nous vous prions d'agréer. »
Voici en outre, ajouta le Chinois, de la musique que mon épouse a composée sur un passage de votre préface. Elle rend merveilleusement l'intention de l'auteur.
Messieurs, leur dis-je, autant que j'en puis juger, vous me semblez doués d'un grand cœur et d'un esprit plein de lumière, mais pardonnez-moi de vous faire une question. D'où vient votre mélancolie ?
Monsieur, répondit l'habitant du Sénégal, regardez comme je suis bâti. Mon plumage, il est vrai, est agréable à voir, et je suis revêtu de cette belle couleur verte qu'on voit briller sur les canards. Mais mon bec est trop court, et mon pied est trop grand, et voyez de quelle queue je suis affublé. La longueur de mon corps n'en fait pas les deux tiers. N'y a-t-il pas là de quoi se donner au diable ?
Mais moi, monsieur, dit le Chinois, mon infortune est encore plus pénible. La queue de mon confrère balaie les rues, mais les polissons me montreront au doigt, à cause que je n'en ai point.
Messieurs, repris-je, je vous plains de toute mon âme. Il est toujours fâcheux d'avoir trop ou trop peu, n'importe de quoi. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a au jardin des plantes plusieurs personnes qui vous ressemblent et qui demeurent là depuis longtemps, fort paisiblement empaillées. De même qu'il ne suffit pas à une femme de lettres d'être dévergondée pour faire un bon livre, ce n'est pas non plus assez pour un merle d'être mécontent pour avoir du génie. Je suis seul de mon espèce et je m'en afflige. J'ai peut-être tort, mais c'est mon droit. Je suis blanc, messieurs. Devenez-le, et nous verrons ce que vous saurez dire. Chapitre 8. Malgré la résolution que j'avais prise et le calme que j'affectais, je n'étais pas heureux. Mon isolement, pour être glorieux, ne m'en semblait pas moins pénible, et je ne pouvais songer sans effroi à la nécessité où je me trouvais de passer ma vie entière dans le célibat. Le retour du printemps, en particulier, me causait une gêne mortelle, et je commençais à tomber de nouveau dans la tristesse lorsqu'une circonstance imprévue décida de ma vie entière. Il va sans dire que mes écrits avaient traversé la Manche et que les Anglais se les arrachaient. Les Anglais s'arrachent tout, hormis ce qu'ils comprennent. Je reçus un jour de Londres une lettre signée d'une jeune merlette. « J'ai lu votre poème, me disait-elle, et l'admiration que j'ai éprouvée m'a fait prendre la résolution de vous offrir ma main et ma personne. Dieu nous a créés l'un pour l'autre. Je suis semblable à vous. Je suis une merlette blanche. » On suppose aisément ma surprise et ma joie. « Une merlette blanche ? » me dis-je. « Mais est-il bien possible ? » Oh, je ne suis donc plus seul sur la terre. Je me hâtai de répondre à la belle inconnue, et je le fis d'une manière qui témoignait assez combien sa proposition m'agréait. Je la pressai de venir à Paris ou de me permettre de voler près d'elle. Elle me répondit qu'elle aimait mieux venir parce que ses parents l'ennuyaient, et qu'elle mettait ordre à ses affaires et que je la verrais bientôt. Elle vint en effet quelques jours après. Oh bonheur! C'était la plus jolie merlette du monde, et elle était encore plus blanche que moi. Ah, mademoiselle, m'écriai-je, ou plutôt madame, car je vous considère dès à présent comme mon épouse légitime, est-il croyable qu'une créature si charmante se trouvât sur la terre sans que la renommée m'apprît son existence? Béni soient les malheurs que j'ai éprouvés et les coups de bec que m'a donné mon père, puisque le ciel me réservait une consolation si inespérée. Jusqu'à ce jour, je me croyais condamné à une solitude éternelle, et, à vous parler franchement, c'était un rude fardeau à porter. Mais je me sens, en vous regardant, toutes les qualités d'un père de famille. Acceptez ma main sans délai, marions-nous à l'anglaise, sans cérémonie, et partons ensemble pour la Suisse. Je ne l'entends pas ainsi, me répondit la jeune merlette. Je veux que nos noces soient magnifiques et que tout ce qu'il y a en France de merle un peu bien né y soit solennellement rassemblé. Des gens comme nous doivent à leur propre gloire de ne pas se marier comme des chats de gouttière. J'ai apporté une provision de banque-notes. Faites vos invitations, allez chez vos marchands et ne lésinez pas sur les rafraîchissements. Je me conformai aveuglément aux ordres de la blanche merlette. Nos noces furent d'un luxe écrasant. On y mangea 10 000 mouches. Nous reçûmes la bénédiction nuptiale d'un révérend père Cormoran, qui était archevêque in partibus. Un bal superbe termina la journée. Enfin, rien ne manqua à mon bonheur. Plus j'approfondissais le caractère de ma charmante femme, plus mon amour augmentait. Elle réunissait dans sa petite personne tous les agréments de l'âme et du corps. Elle était seulement un peu bégueule, mais j'attribuais cela à l'influence du brouillard anglais dans lequel elle avait vécu jusqu'alors, et je ne doutais pas que le climat de la France ne dissipa bientôt ce léger nuage. Une chose qui m'inquiétait plus sérieusement, c'était une sorte de mystère dont elle s'entourait quelquefois avec une rigueur singulière, s'enfermant à clé avec ses caméristes et passant ainsi des heures entières pour faire sa toilette à ce qu'elle prétendait. Les maris n'aiment pas beaucoup ces fantaisies dans leur ménage. Il m'était arrivé 20 fois de frapper à l'appartement de ma femme sans pouvoir obtenir qu'on m'ouvrît la porte. Cela m'impatientait cruellement. Un jour, entre autres, j'insistais avec tant de mauvaise humeur qu'elle se vit obligée de céder et de m'ouvrir un peu à la hâte, non sans se plaindre fort de mon importunité. Je remarquai, en entrant, une grosse bouteille, pleine d'une espèce de colle faite avec de la farine et du blanc d'Espagne. Je demandai à ma femme ce qu'elle faisait de cette drogue. Elle me répondit que c'était un opiat pour des engelures qu'elle avait. Cet opium me sembla tant soit peu louche. Mais quelle défiance pouvait m'inspirer une personne si douce et si sage, qui s'était donnée à moi avec tant d'enthousiasme et une sincérité si parfaite? J'ignorais d'abord que ma bien-aimée fut une femme de plume. Elle me l'avoua au bout de quelque temps, et elle alla même jusqu'à me montrer le manuscrit d'un roman où elle avait imité à la fois Walter Scott et Scarron. Je laisse à penser le plaisir que me causa une si aimable surprise. Non seulement je me voyais possesseur d'une beauté incomparable, mais j'acquérais encore la certitude que l'intelligence de ma compagne était digne en tout point de mon génie. Dès cet instant, nous travaillâmes ensemble. Tandis que je composais mes poèmes, elle barbouillait des rames de papier. Je lui récitais mes vers à haute voix, et cela ne la gênait nullement pour écrire pendant ce temps-là. Elle pondait ses romans avec une facilité presque égale à la mienne, choisissant toujours les sujets les plus dramatiques, des parricides, des raptes, des meurtres, et même jusqu'à des filouteries, ayant toujours soin, en passant, d'attaquer le gouvernement et de prêcher l'émancipation des mères lettres. En un mot, aucun effort ne coûtait à son esprit, aucun tour de force à sa pudeur. Il ne lui arrivait jamais de rayer une ligne, ni de faire un plan avant de se mettre à l'œuvre. C'était le type de la merlette lettrée. Un jour qu'elle se livrait au travail avec une ardeur inaccoutumée, je m'aperçus qu'elle suait à grosses gouttes, et je fus étonné de voir en même temps qu'elle avait une grande tache noire dans le dos. « Eh, bon Dieu !» lui dis-je, « qu'est-ce donc? Est-ce que vous êtes malade ?» Elle parut d'abord un peu effrayée et même penaude. Mais la grande habitude qu'elle avait du monde l'aida bientôt à reprendre l'empire admirable qu'elle gardait toujours sur elle-même. Elle me dit que c'était une tache d'encre et qu'elle y était fort sujette dans ses moments d'inspiration. « Est-ce que ma femme déteint ?» me dis-je tout bas. Cette pensée m'empêcha de dormir. La bouteille de colle me revint en mémoire. « Oh, ciel ! » m'écriai-je, « quel soupçon ! Cette créature céleste, ne serait-elle qu'une peinture, un léger badigeon ? Se serait-elle vernie pour amuser de moi ? Quand je croyais presser sur mon cœur la sœur de mon âme, l'être privilégié créé pour moi seul, n'aurais-je donc épousé que de la farine? Poursuivi par ce doute horrible, je formais le dessein de m'en affranchir. Je fis l'achat d'un baromètre et j'attendis avidement qu'il vint à faire un jour de pluie. Je voulais emmener ma femme à la campagne, choisir un dimanche douteux et tenter l'épreuve d'une lessive. Mais nous étions en plein juillet, il faisait un beau temps effroyable. L'apparence du bonheur et l'habitude d'écrire avaient fort excité ma sensibilité. Naïf comme j'étais, il m'arrivait parfois, en travaillant, que le sentiment fût plus fort que l'idée et de me mettre à pleurer en attendant la rime. Ma femme aimait beaucoup ces rares occasions. Toute faiblesse masculine enchante l'orgueil féminin. Une certaine nuit que je limais une rature, selon le précepte de Boileau, il advint à mon cœur de s'ouvrir. « Oh, toi, dis-je à ma chère merlette, toi la seule et la plus aimée, toi sans qui ma vie est un songe, toi dont un regard, un sourire métamorphose pour moi l'univers, vie de mon cœur, « sais-tu combien je t'aime ?» Pour mettre en vers une idée banale déjà usée par d'autres poètes, un peu d'étude et d'attention me font aisément trouver des paroles. Mais où en prendrais-je jamais pour t'exprimer ce que ta beauté m'inspire? Le souvenir même de mes peines passées pourrait-il me fournir un mot pour te parler de mon bonheur présent? Avant que tu fusses venu à moi, mon isolement était celui d'un orphelin exilé, aujourd'hui c'est celui d'un roi. Dans ce faible cœur, dont j'ai le simulacre jusqu'à ce que la mort en fasse un débris, dans cette petite cervelle enfiévrée, où fermente une inutile pensée, sais-tu, mon ange, comprends-tu, ma belle, que rien ne peut être qui ne soit à toi? Écoute ce que mon cerveau peut dire, et sens combien mon âme et mon amour sont plus grands. Oh, que mon génie fût une perle, et que tu fusses Cléopâtre! En radotant ainsi, je pleurais sur ma femme, et elle déteignait visiblement. À chaque larme qui tombait de mes yeux, apparaissait une plume non pas même noire, mais du plus vieux roux. Je crois qu'elle avait déjà déteint autre part. Après quelques minutes d'attendrissement, Je me trouvais vis-à-vis d'un oiseau décollé et désenfariné, identiquement semblable aux merles les plus plats et les plus ordinaires. Que faire? Que dire? Quel parti prendre? Tout reproche était inutile. J'aurais bien pu, à la vérité, considérer le cas comme rédhibitoire et faire casser mon mariage. Mais comment oser publier ma honte? N'était-ce pas assez de mon malheur? Je pris mon courage à deux pattes. Je résolus de quitter le monde, d'abandonner la carrière des lettres, de fuir dans un désert, s'il était possible d'éviter à jamais l'aspect d'une créature vivante et de chercher, comme Alceste, un endroit écarté où d'être un merle blanc, on eut la liberté. Je m'envolai là-dessus, toujours pleurant, et le vent, qui est le hasard des oiseaux, me rapporta sur une branche de morte fontaine. Pour cette fois, on était couché. Quel mariage, me disais-je, quel équipé! C'est certainement à bonne intention que cette pauvre enfant s'est mis du blanc. Mais je n'en suis pas moins à plaindre, ni elle moins rousse. Le rossignol chantait encore. Seul au fond de la nuit, il jouissait à plein cœur du bienfait de Dieu qui le rend si supérieur au poète et donnait librement sa pensée au silence qui l'entourait. Je ne pus résister à la tentation d'aller à lui et de lui parler. « Que vous êtes heureux, lui dis-je. Non seulement vous chantez tant que vous voulez, et très bien, et tout le monde écoute, mais vous avez une femme et des enfants, votre nid, vos amis, un bon oreiller de mousse, la pleine lune et pas de journaux. Rubini et Rossini ne sont rien auprès de vous. Vous valez l'un et vous devinez l'autre. J'ai chanté aussi, monsieur, et c'est pitoyable. J'ai rangé des mots en bataille comme des soldats prussiens et j'ai coordonné des fadaises pendant que vous étiez dans les bois. Votre secret peut-il s'apprendre ? Oui, me répondit le rossignol, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ma femme m'ennuie, je ne l'aime point. Je suis amoureux de la rose. Sadi, le persan, en a parlé. Je m'égosille toute la nuit pour elle, mais elle dort et ne m'entend pas. Son calice est fermé à l'heure qu'il est. Elle y berce un vieux scarabée. Et demain matin, quand je regagnerai mon lit, épuisé de souffrance et de fatigue, c'est alors qu'elle s'épanouira pour qu'une abeille lui mange le cœur. Fin de l'histoire d'un merle blanc.